Rencontre avec un élu. Une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic, agence de communication institutionnelle.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre avec un élu. On accueille aujourd'hui Hervé Guillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Saint-Brieuc depuis 2020, vous êtes vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, donc Saint-Brieuc situé dans les Côtes d'Armor, 44 000 habitants. Vous êtes une ville qui bénéficie du programme Action Cœur de Ville, vous êtes la première des 11 villes bretonnes qui a été bénéficiaire de ce programme. Et donc quand on parle Action Cœur de Ville, revitalisation du territoire, on parle aussi de politique urbaine, et depuis le début de votre mandat, vous avez notamment mis en place un gros effort à l'échelle de la mairie sur la réhabilitation des friches existantes que vous aviez sur votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des principaux projets réalisés jusqu'à présent et comment est-ce que vous avez monté un certain nombre de partenariats avec les acteurs privés pour les attirer justement dans votre territoire et travailler sur ce projet de réhabilitation ?
En fait, Saint-Brieuc, c'est comme les villes, on dit moyennes ou à taille humaine, elle cochait toutes les difficultés. C'est une ville qui s'est construite en s'étalant vers l'extérieur, les services publics sont partis, les commerces se sont vidés, les enseignes ont rempli les zones commerciales et les habitants sont allés sur des lotissements en forme de raquettes. Donc nous, quand nous sommes arrivés, cette ville avait perdu presque 10 000 habitants hein, sur les 40 dernières années. Donc en fait, je me suis dit que à la base, cette ville devait contenir de quoi absorber tous les habitants que je voulais faire revenir sans devoir s'étendre. Puisque dans les années 80, il y avait 54 000. En 2020, il y en a 44. Elle contient en elle-même tout ce qu'il faut.
Et c'était plutôt des habitants qui étaient partis en petite couronne ou les faire revenir ou d'autres habitants en se disant bah, finalement après Covid, etc., il y a peut-être des gens qui veulent aussi venir
Moi, j'ai fait le pari de l'après-Covid et de nouveaux habitants. En fait, j'ai fait le pari des urbains. De celles et ceux pour qui vivre en ville, ça veut dire quelque chose, avec une certaine forme de qualité de vie, et pour qui rénover, ça n'allait pas être un obstacle, parce que finalement, le pouvoir d'achat des métropolitains est supérieur à celui d'un briochin, et donc nous sommes un marché attractif. Partant de ce principe, si c'est un marché attractif, je vais pouvoir faire jouer le privé. Mmh. Sauf que le privé, il venait pas voir Saint-Brieuc, il restait sur les grandes métropoles.
Alors, comment est-ce que vous avez fait ?
Eh bien, on s'est dit, si on renversait le problème, si on faisait un salon inversé, plutôt que de passer des mois à aller sur tous les salons français, je vais faire un showroom de ma ville et je vais sélectionner les investisseurs en leur disant, vous galérez dans les métropoles, ça devient trop cher, vous êtes en tension, venez voir un marché de repli, Saint-Brieuc.
Et c'est donc un showroom que vous avez baptisé « Ouvrez les yeux sur Saint-Brieuc ».
C'est ça. Bon, c'est un salon inversé, en fait. On a sélectionné 13 friches importantes dans l'hypercentre. On les a travaillées comme des promoteurs, avec un bilan de FESA. On a travaillé la dureté foncière, les propriétés, vraiment pour pouvoir les présenter d'une manière, non pas « Vous êtes à 2 heures de Paris, il y a la mer à côté », mais vous voyez quelle rentabilité vous pouvez tirer de ce bâtiment. Il y a l'architecte des
Donner
bâtiments.
Donner envie de faire.
Ouais, l'architecte des bâtiments de France était là. Et ce qu'on leur a dit, c'est que, à la fin de ce showroom, vous nous dites les 2 ou 3 friches qui peuvent vous intéresser. On va travailler avec vous pour vous en sélectionner une. Et à la fin, vous serez VIP. C'est-à-dire que l'ensemble de la structure administrative va bosser totalement avec vous dans une démarche pas à pas pour vous aboutissiez sur votre projet. Avant, dans les villes, on faisait des grandes mises en concurrence, des appels à manifestation d'un projet. Les opérateurs IMO s'épuisaient ou perdaient de l'argent à essayer de faire une offre qui était jamais bien calibrée. Moi, je voulais plus de ça. On sélectionne le bon opérateur qui nous dit à un moment donné, moi, c'est cette friche qui va m'intéresser.
Et c'est avoir en amont le maximum d'informations et d'échanges avec l'ensemble des acteurs, en rassemblant aussi tous les services de la ville et autres pour être sûr que dès le départ, toutes les informations soient données. Oui. Et qu'on puisse donner justement cette envie de faire.
C'est ça. Et effectivement, au départ, on pouvait avoir 3, 4, 5 investisseurs ou promoteurs sur une friche. Et puis en avançant techniquement, certains nous ont dit non, celle-là, elle n'est pas pour moi vu la complexité. Celle-là, on dit oui. Et à la fin, il n'y en reste qu'un. Et vous avez fait un travail qui est cohérent. Ils étaient souvent intéressés par 3 ou 4 friches et chacun a pris la sienne au final en fonction de sa personnalité et son profil. On dit souvent une maison à son acheteur. Et ben, je peux vous dire qu'une friche dans une ville a son acheteur aussi. C'est exactement la même démarche.
Et toutes les friches ont trouvé preneur pour différents projets, que ce soit du tertiaire, du commerce, des logements.
Alors, avec une certaine granularité, c'est-à-dire que moi, mes services n'ont pas non plus la capacité à sortir toutes les friches d'un coup. Donc, on les a priorisés, ça c'est un choix politique. Mmh. Je voulais d'abord certains lieux dans la ville, et donc on a priorisé certains dossiers en disant aux autres investisseurs, bah, écoutez, vous passerez en deuxième, en troisième ou en quatrième. Sur les 13 friches, il y en a 8 qui sont dans les tuyaux, qui sont en train de sortir, et les autres, on va commencer à les lancer dès cet hiver. On a vraiment mis les choses bout à bout, notamment parce que je ne voulais pas qu'il y ait de concurrence.
Et donc, dans les 8 friches lancées, il y a notamment la friche Allende, je crois, qui est une des plus emblématiques de la ville et qui accueillera à partir de 2027 des services, des bureaux et des logements. C'est la première qui sortira ou il y en a déjà d'autres qui sont...
Ah non, il y en a d'autres qui sont déjà sorties. Là, aujourd'hui, il y en a déjà 3 totalement sorties.
D'accord.
Mais celle-ci, elle est assez intéressante parce qu'elle était propriétaire du... Je ne sais pas si je peux me permettre de dire, une banque qui s'appelle le Crédit Agricole, propriétaire de l'État et propriétaire de la ville pour un sous-sol, et personne n'arrivait à s'en entendre. Et au final, c'était une friche. Donc là, moi, le maire que je suis, j'ai réussi à mettre tout le monde autour de la table, faire considérablement baisser les prix, les coûts de vente, parce que si on veut que ce soit rentable, si le bilan doit être équilibré, il faut faire baisser ça. Et moi, j'ai apporté ma part de service public en disant j'achète le rez-de-chaussée et le premier étage pour faire l'accueil de tous les services au public.
D'accord.
Et donc, ça garantit quand même qu'il y a une part de ce bâtiment qui va être financé. J'ai trouvé un investisseur qui me fait du logement, et surtout, j'en ai trouvé un autre qui me fait un rooftop. Parce que tout en haut, vous aurez un des plus beaux points de vue sur la ville et vue sur la mer. Voilà.
Oui, donc vous répondez aussi à des enjeux un petit peu d'évolution de nos territoires, où les gens ont aussi envie d'avoir de l'extérieur, les gens ont peut-être une nouvelle façon de vivre. Donc avec ce rooftop, finalement, vous attirez aussi...
Complètement. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis plus cette génération des maires bâtisseurs des années 80-90. Moi, je suis plutôt un maire qui fabrique un style de vie. Ça passe par du bâtiment, évidemment. Mais je crois que les gens reviennent en ville pour vivre un style de vie, une qualité. Et en Bretagne, 2 heures de Paris, bord de la mer, là, cette fois-ci, je le dis, si je fabrique pas cette qualité de vie, elle est où? Donc, c'est vraiment mon truc en plus.
A priori, c'est une méthode efficace de promotion des friches, parce que je crois qu'après le lancement de ce programme, la quasi-totalité des friches a trouvé preneur. Mais on a posé un peu la méthode, mais vous êtes surtout appuyé sur 2 outils pour réaliser ces opérations. Une concession multisite d'aménagement d'une durée de 10 ans et puis une foncière commerciale. Comment est-ce que vous avez structuré tout ça?
Alors ça, c'est spécifiquement pour l'hypercentre. J'avais, comme beaucoup, le problème de mes commerces vides. Hein. J'ai un commerce sur 3 qui est abandonné. Et il est souvent pas en bon état, loyer trop cher, sauf que dans les commerces, généralement, ils ont annulé l'escalier, ils ont fermé les étages, ce sont des immeubles qui sont abandonnés.
Donc c'est du stockage et c'est pas utilisé.
Et l'objectif d'un maire, c'est de refaire venir des habitants. Et là, je me suis dit, j'ai pas les bons outils. Si je me consacre sur la foncière, j'arriverai pas à refaire venir un commerçant dans un pas de porte qui est pas en bon état. Et puis, il y a pas d'habitants. Et on sait que plus de 65% des gens qui viennent dans les commerces en centre-ville habitent la ville. Donc, j'ai construit une concession qui, elle, rachète la totalité de l'immeuble, qui refabrique les habitats et qui met à disposition un commerce rénové. Et là où on a été malin, c'est qu'en fait, j'ai articulé complètement les deux. C'est-à-dire que la foncière me dit à combien elle est capable d'acheter ce pas de porte à cet endroit. Est-ce que c'est un emplacement number one ou pas? Elle fixe son prix. La concession l'achète, lui réalise tout, et il y a forcément un déficit. Mais la concession a l'obligation de vendre à la foncière. Ils sont liés par contrat dès le départ. Tout est entendu calé financièrement dès le départ. Et là où je mets de l'argent public...
Ça évite les mauvaises surprises.
Oui, et puis surtout, on fabrique le bon produit. Et là où je mets de l'argent public, moi, c'est où? C'est dans ce déficit. Cet écart entre le prix de loyer nécessaire pour démarrer avec la foncière et le coût qu'a nécessité la rénovation de cet immeuble et ce pas de porte. Souvent, on ne sait pas où mettre l'argent public, je le mets exactement là. Non seulement j'ai rénové un immeuble, mais j'ai mis un commerçant. Et ça, on en rachète 16. 16 immeubles en hypercentre. C'est massif, mais parce que je pense que dans les villes moyennes qui se sont vidées de leur commerce, le soutien à la subvention, c'est pas suffisant et il faut être massif dans son intervention.
Ça veut dire que vous avez une forme de droit de regard sur la diversification des commerces en disant, il y a 10 fleuristes, on va peut-être mettre plutôt un coiffeur. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous remettez justement des cellules commerciales aussi à loyer modéré pour s'adapter en fonction des profils de commerçants?
Ouais, alors c'est faut vraiment jongler entre la puissance publique et le secteur privé. Moi, je suis pas commerçant, c'est pas mon métier. C'est pour ça que je suis allé chercher une foncière privée. C'est une pure foncière privée qui a l'habitude d'implanter des commerçants, qui connaît le marché, qui connaît les centres-villes et qui va aller chercher dans son catalogue des gens à implanter. Donc on a défini une stratégie avec elle. Moi par contre, j'agis sur le prix du marché. Là, c'est la puissance publique qui agit sur le prix du marché. Je fais baisser ce prix du marché et je me cale sur un loyer, sur un niveau de loyer que je vais effectivement subventionner par la prise en charge du déficit. Mais je me substitue pas aux professionnels du commerce. Je saurais pas faire. Ça, c'est la foncière.
Non, l'idée, c'est de réfléchir ensemble de la meilleure des manières pour attirer effectivement des nouvelles cellules commerciales eu égard au prix, et comment est-ce qu'en réfléchissant ensemble, vous arrivez à trouver la meilleure méthode. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que vous étiez la première ville bretonne à être entrée dans le programme Action Cœur de Ville. Est-ce que le programme Action Cœur de Ville, avec l'ensemble des gros partenaires qui sont autour de la table, a contribué à vous faire accélérer dans ce projet de réhabilitation de friches, ou c'est des choses que vous aviez déjà en tête
Non, très clairement, ça coche du financement, pas tant que ça, hein, mais ça coche de l'ingénierie. Vraiment ça.
Donc ça a permis d'accélérer finalement la mise en route des projets et leur...
On n'aurait jamais inventé l'articulation de la concession de la foncière si on n'avait pas eu cette ingénierie qui, à un moment donné, nous a mis en évidence qu'il fallait coller les deux ensemble. Jamais on n'y aurait pensé. On aurait tous eu une concession d'un côté, une foncière de l'autre, et on se serait demandé pourquoi on n'arrive pas à aller plus vite. Et donc, Action Cœur de Ville, la Banque des Territoires, la NCT, tous ces outils nous ont vraiment permis d'avoir des compétences, des gens qui réfléchissent, qui connaissent avec vous. Et à un moment donné, cette intelligence collective sort ce dispositif. On pense souvent à eux sous le côté financier, évidemment. Mais je pense
l'ingénierie est indispensable.
Indispensable, oui.
Et la preuve, c'est eux qui, justement, avec vous, ont réfléchi à trouver ce modèle et de la meilleure façon de l'appliquer pour développer ces différents projets. J'ai noté qu'il y avait une dizaine de projets immobiliers d'envergure, du coup, qui étaient éparpillés sur les différentes friches. Vous sentez déjà qu'il y a un retour d'habitants, des nouveaux habitants qui regardent, les immeubles se remplissent. Il y a déjà cet effet escompté que vous souhaitiez ? Vous arrivez à le mesurer ?
Oui, sur l'habitat, sur la population, c'est net. On le voit, nous, notamment par le type de permis qui ont été sortis. Et surtout, je réunis tous les agences immobilières et les notaires une fois par an pour faire le point avec eux, pour mesurer ça, mesurer le marché. C'est eux qui m'ont indiqué, par exemple, qu'il y avait une embolie sur le logement étudiant. Et que du coup, ça mobilisait des logements
familiaux. Ça permet de réagir tout de suite et d'ajuster le tir.
D'aller chercher le promote en lui disant attention, c'est plutôt ça le produit qui doit sortir. Ça, on l'a vu. Là où il y a un frein en ce moment, c'est le tertiaire. Alors c'est moins rentable et le tertiaire s'empile un peu et on a du mal à le sortir dans le bon ordre. Donc pour l'habitation, le commerce, ça fonctionne. Le tertiaire, ça reste une vraie difficulté. L'investisseur a quand même tendance à pondre du mètre carré de bureau, mais il faut trouver les bons acheteurs de l'autre côté.
Il y a un dialogue qui est nécessaire. Alors, peut-être dernière question. Le fait de transformer, de recycler les friches pour redynamiser, revitaliser, vous êtes pile dans le zéro artificialisation net. On construit la ville sur la ville. Donc, finalement, vous êtes déjà au-delà, peut-être, des attentes qui peuvent être imposées par la trajectoire du ZAN.
Oui, et quand, en plus, je suis la ville-centre. Donc, je suis la plus grosse ville dans une agglomération qui est plutôt rurale, donc sur laquelle, normalement, un maire rural pense mètre carré, extension, hectares. Pour lui, c'est essentiel. Et donc, moi, ça m'a permis d'avoir une égo plus simple en disant, bah, écoutez, moi, non, sur le papier, je peux en avoir 11. J'en prends, j'ai regardé mes poches un peu partout, j'en prends 4. Le reste, je vous laisse. Mais avec ces 4-là, j'ai ce qu'il faut pour combler mes différents secteurs. Et moi, ça impose à mes promoteurs de toute façon rénover la ville sur elle-même. J'ai pas ouvert d'autres opportunités. Mais en faisant ce geste, ça m'a permis d'expliquer à chaque maire qu'il était assis sur un fantasme. Quand il a 4 hectares à l'urbanisation depuis 20 ans, et que jamais un hectare n'a été commercialisé, c'est qu'en fait, il est assis sur un fantasme. C'est que sa ville a une taille réelle, elle pourra peut-être augmenter de quelques lotissements, mais pas beaucoup plus, et qu'il doit intégrer le fait qu'elle a déjà sa taille naturelle, sa ville. Et que cette augmentation des villes périphériques...
Les villes de 2050 sont déjà construites, en réalité.
Mais oui, en bonne partie. Et qu'il faut qu'ils pensent plutôt à un parcours immobilier qui soit plus cohérent entre les différentes tranches d'âge. Le ZAN nous a permis de faire ça. En tout cas, en Bretagne, le ZAN s'est plutôt bien passé. On a trouvé des accords parce qu'on a réussi à mettre un peu de rationalité sur le fantasme de l'hectare nécessaire qui, en fait, n'est jamais construit.
Merci monsieur le maire de cet éclairage et de la réussite de vos projets qui montrent que la méthode de reconstruction de la ville sur la ville est capable tant de contribuer finalement à renforcer l'attractivité du territoire que de répondre à cet enjeu de sobriété foncière. Donc merci de votre présence.
Merci à vous.
Rencontre avec un élu, une émission proposée par Compublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria.